Le journal de Jérémy Pignard.
Bonjour, le tourisme régional étoffe son offre et sa communication autour de nos richesses naturelles et culturelles. Un nouvel espace découverte du parc régional du Doubs va être inauguré ce soir à Saint-Ursanne. Son directeur Régis Borua sera notre invité dans un instant. Accompagner les propriétaires qui désirent installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de leur bâtiment, c'est le but du projet Groupit, présenté ce matin et mis en place dans l'agglo de Delémont. Ça vise les particuliers mais aussi les petites entreprises. Il n'y a pas que l'euro dans la ville, il y a aussi le football des talus avec la finale de la Coupe Jurassienne des Juniors ce week-end à Courandelin. On fera le point sur le dispositif sanitaire particulier. Journée très chaude annoncée pour demain jusqu'à 32 degrés en pleine avec un ciel bien ensoleillé, ciel beaucoup plus menaçant dimanche avec des orages et une pluie qui viendra rafraîchir l'atmosphère. Un nouvel outil pour le tourisme régional, un espace découverte du parc régional du Doubs va être inauguré ce soir à Saint-Ursanne et dimanche aussi avec une grande journée festive, des visites et des balades organisées. Un nouvel espace qui se veut comme une vitrine des richesses naturelles et culturelles de Clos du Doubs. Bonjour Régis Borua.
Bonjour.
Directeur du parc du Doubs, merci d'être avec nous pour évoquer cet espace découverte. En résumé, c'est une salle aménagée dans les bureaux de Jura Tourisme à Saint-Ursanne. Qu'est-ce que le visiteur va pouvoir y trouver? Est-ce que c'est le nouveau centre névralgique du tourisme local?
Alors, effectivement, cet espace est situé à l'étage supérieur du bureau de l'Office du tourisme, de Jura Tourisme. C'est un espace d'accueil, d'information, de sensibilisation, de découverte. On va y trouver toutes sortes de documentations en lien avec, finalement, les richesses de Clos du Doubs. Et tout tourne autour du Doubs, de ses richesses naturelles, patrimoniales, culturelles, autour de l'Apron aussi, le roi du Doubs, espèce en voie de disparition. Et on y trouve des ouvrages, des jeux, parce qu'on veut que cet espace soit aussi ludique, qu'il soit ouvert aux familles. On va y trouver des panneaux, de la documentation, des petits films. Donc on va y venir pour s'informer, se sensibiliser et un peu jouer également.
Ça manquait clairement un endroit où on centralisait ces informations. Est-ce que nos richesses locales étaient jusqu'ici mal vendues, si je peux me permettre?
Elles ne sont pas mal vendues, elles sont même très bien vendues par Jura Tourisme, mais on voulait aussi ancrer quelque part le parc dans un lieu physique pour qu'il puisse faire valoir ses projets, son action en faveur de la biodiversité, du développement durable, du développement économique aussi. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce lieu en étroite collaboration, non seulement avec la commune, mais aussi Jura Tourisme, parce que le parc, c'est non seulement des projets en faveur de la nature et de l'environnement, mais c'est aussi certaines offres touristiques qui seront valorisées par Jura Tourisme.
Portée touristique vis-à-vis des familles, but éducatif aussi, par exemple, dans le cadre scolaire?
Oui, bien sûr, but éducatif à l'attention non seulement des visiteurs et des touristes, mais aussi des habitants du parc, ça c'est très important. Et dans ce cadre-là, c'est un espace qui est amené à vivre, à être animé, par des animations précisément à l'attention des écoles, mais aussi du grand public, par l'organisation de sorties découvertes, d'animations de toutes sortes, non seulement dans cet espace, mais aussi dans l'ensemble de la commune de Clos du Doubs.
Est-ce que vous en espérez des retombées? Est-ce qu'on va avoir plus de touristes grâce à ce nouvel outil?
On espère avoir davantage de touristes. Il existe un tourisme vert actuellement et les gens de l'extérieur parfois simplement ouvrent la carte des parcs en Suisse et découvrent les 19 parcs naturels et en font des lieux de destination. Donc on espère attirer davantage de touristes, mais également un objectif d'améliorer l'information auprès des habitants, auprès de l'ensemble de la population.
Une dernière précision, cet espace-là concerne surtout le secteur Clos du Doubs, mais on le sait, le parc régional du Doubs, c'est bien plus grand que cela. Ça veut dire qu'on va voir d'autres points de ce genre fleurir ces prochaines années?
Oui, nous avons en projet d'autres espaces d'accueil de ce type à La Chaux-de-Fonds, en collaboration avec les institutions zoologiques et le nouveau musée d'histoire naturelle qui sera situé au bois du Petit Château, mais également, on l'espère, un espace d'accueil à La Gruère dans le cadre du projet de plan spécial cantonal actuellement à l'étude, et également au Brenet dans le cadre du Saut du Doubs notamment. Ce sont 4 lieux géographiques importants qui drainent chaque année plus de 100 000 visiteurs.
Merci beaucoup Régis Borua d'avoir été en direct sur RFJ.
Merci à vous.
Et on rappelle donc dimanche cette grande journée d'animation pour petits et grands, 9h30, 17h30, avec notamment des visites commentées, des balades et bien évidemment la possibilité de visiter librement ce nouvel espace découverte toute la journée.
Tout à fait.
On file maintenant du côté du Jura bernois où Morane Riesen a claqué la porte du Conseil du Jura bernois. La membre du groupe socialiste autonome a présenté sa démission avec effet succès immédiat, selon une lettre transmise ce matin aux médias. Dès le départ que l'élu de la Neuville justifie par la dernière élection controversée du bureau du CJB, PLR et UDC avaient refusé le 26 mai dernier de nommer le PSA Pierre Mercera à la présidence. Morane Rizen estime que les bases d'un travail constructif ne sont plus réunies au sein de l'institution régionale.
La politique régionale, que ce soit à l'AIJ ou le CJB durant les dernières législatures, était empreinte davantage de dialogue, de respect. Et maintenant, après le vote de Moutier, la région aurait dû ou aurait pu se montrer plus unie, plus ouverte, dépasser justement certaines différences. Et la majorité du CJB a néanmoins souhaité être dans une tactique de vengeance et faire un déni de démocratie. Et je le regrette.
Aujourd'hui, le dialogue, il est plus possible pour vous?
Je dirais qu'il y a... L'esprit de consensus, de dialogue, de respect a été rompu par la majorité en faisant ce déni de démocratie. Ensuite, certains dossiers, le travail peut continuer, mais je pense qu'il y a eu quand même une certaine rupture une volonté de vengeance qui fait mal à ce travail constructif qu'on devrait avoir dans une telle institution politique.
Morane Rizen qui répondait à Alexandre Rosset. Elle précise qu'il s'agit d'une décision personnelle et encourage les autres membres du groupe autonome à poursuivre leur mission et attendre l'issue du recours déposé à la suite de cette élection controversée. Un climat tendu qui ne devrait pas gâcher la fête ce soir dans les rues de Moutier en ce vendredi 18 juin. 4 ans jour pour jour après le premier vote, la cité va célébrer ce soir sa liberté. La traditionnelle fête de la liberté, contrainte de s'adapter aux conditions sanitaires. Ce sera en vieille ville, dans un périmètre sécurisé pour ce qui est de la partie officielle. Un programme très encadré, comme l'explique l'une des responsables, Mylène Jolidon.
Alors ce soir, il y aura une petite partie politique avec deux discours. Un discours de Moutier-Ville Jurassienne et puis un discours de la commune. C'est l'occasion finalement de se retrouver en comité restreint, étant donné que les normes nous contraignent à un nombre de 300 personnes. Mais c'est quand même l'occasion de marquer le coup.
Le 28 mars, il y avait des milliers de personnes dans les rues à Moutier. Vous ne craignez pas un scénario identique?
Non, après c'est vrai qu'on, de toute façon, nous, dans le périmètre qui sera établi, c'est réservé pour 300 personnes. Après, c'est sûr qu'on invite la population à profiter du beau temps pour aller sur les terrasses des restaurateurs. On a prévenu les restaurateurs, donc ils sont au courant qu'il y aura du monde, peut-être pour de la vente à emporter. Et puis, on espère justement que ces restaurateurs puissent profiter de l'occasion pour un peu rattraper... les mois de disette.
Mylène Jolidon au micro d'Olivier Zano. Coup d'envoi des festivités à 18h30. Ça se passe surtout devant l'hôtel de ville. Les entreprises jurassiennes solides face à la pandémie de Covid-19 l'an dernier. C'est le constat rassurant de la Chambre de commerce et d'industrie du Jura. Elle tenait hier soir son assemblée générale à huis clos, pandémie oblige. Les entreprises jurassiennes ont toujours été capables de trouver des solutions innovantes et de s'adapter, relève la CCIJ. Son président Georges Humard a notamment souligné l'importance d'offrir des conditions cadres favorables, d'autant plus en période de crise. Une collaboration autour de l'énergie solaire se met en place au niveau de l'agglomération de Delémont. Un projet destiné à promouvoir ce type d'énergie renouvelable a été présenté aujourd'hui. Il s'intitule Groupit et est lancé en collaboration avec la HESSO Valais. Le projet, qui est soutenu par l'Office fédéral de l'énergie, vise les particuliers mais aussi les petites entreprises. Concrètement, les propriétaires qui désirent installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de leur bâtiment seront accompagnés. Un appui qui va d'une pré-évaluation à la réalisation d'un appel d'offres groupé. Et ça se déroule en deux phases, comme l'explique le représentant du groupe IT à la HESSO Valais, Jean-Marie Laurent.
Il y a une première partie qui est totalement prise en charge par l'agglomération de Delémont, qui est une pré-évaluation du potentiel photovoltaïque du bâtiment. Donc on va estimer quel dimensionnement d'installation le bâtiment aurait besoin en fonction de sa consommation, et puis quel serait le coût d'une installation. On prend en compte les potentielles subventions de la Confédération, de la commune quand il y en a, et puis le rabais fiscal si on a l'information. Ça permet aux participants de vraiment se rendre compte de quel serait le coût d'une installation et quelle serait la rentabilité d'une installation sur leur bâtiment. Puis ensuite, il y a une deuxième phase pour les gens qui souhaitent aller plus loin dans la réalisation de l'installation. Cette partie-là, on demande une participation de 350 francs. Ça prend en charge la visite du bâtiment pendant laquelle on va confirmer avec la personne le type d'installation qu'elle souhaite pour réaliser un appel d'offres auprès des installateurs locaux. Donc la personne recevra les deux meilleures offres pour son bâtiment et la liste des installateurs qui auront participé. Ça lui permettra d'aller plus loin dans le processus de réalisation, en sachant qu'il est engagé à rien tant qu'il n'aura pas signé d'offre finale avec l'entreprise.
Ce projet Groupit sera présenté publiquement le 24 juin et ça se déroulera en ligne à partir de 20h. Les inscriptions sont possibles sur le site de l'agglomération de Delémont. Le certificat Covid est désormais distribué directement au CEVAC à Courtétel pour les Jurassiens qui reçoivent leur seconde dose de vaccin. C'est en place depuis lundi. Les personnes qui ont été complètement vaccinées avant le 15 juin et celles qui sont guéries du Covid-19 doivent-elles commander leur certificat via la hotline cantonale. Le canton du Jura indique aujourd'hui qu'aucun envoi automatique ne sera effectué comme le prévoit l'Office fédéral de la santé publique. Ce fameux certificat Covid qui aura justement donné bien du fil à retordre aux parlementaires fédéraux ces trois dernières semaines. Et finalement, ces détenteurs n'auront pas de privilèges. Le résultat d'intenses débats durant cette session estivale des chambres fédérales qui s'est achevée ce matin. Le Conseil des États avait d'abord décidé d'accorder des privilèges aux porteurs de ce certificat Covid. Le Conseil national semblait convaincu avant de revenir en arrière et de décider hier que le document ne donnerait droit à aucune exemption particulière. La conseillère nationale verte vaudoise Léonore Porchet s'en réjouit.
Le certificat Covid, avec ses privilèges, en fait, il pose plus de problèmes qu'il n'en résout parce que ça crée beaucoup de discrimination au sein de la population et puis c'est très lourd pour les exploitants et les exploitantes des restaurants, des théâtres, etc.
Est-ce qu'il n'y avait pas un côté logique à dire vous avez fait le geste de vous être fait vacciner, maintenant vous avez le droit à un petit peu plus d'assouplissement ?
Ce sera le cas pour les voyages notamment, ce sera le cas pour les grandes manifestations peut-être. Le certificat Covid, il a d'abord été pensé pour les voyages, mais pas pour aller boire un café. Les gens, ils ne doivent pas être poussés à être vaccinés, ils doivent être convaincus que c'est important pour eux-mêmes et pour la population. C'est ça qui compte.
Et même au centre, le Valaisan Benjamin Roduit affiche aujourd'hui sa satisfaction. Son avis sur l'octroi de privilèges aux détenteurs d'un certificat Covid a évolué au fil des mois.
J'ai été favorable au printemps, lorsqu'ici même dans ce Parlement, on a voté le principe du certificat Covid. Mais maintenant, il faut être réaliste. L'épidémie, j'ose être optimiste, est derrière nous ou est en passe d'être derrière nous. Donc pourquoi créer finalement des problèmes au sein de la population, des suspicions de presque de délit de non-solidarité pour certains et d'engagement social pour d'autres. Non, je crois que là, on va vraiment partir dans une autre logique.
Et le projet a donc été accepté à l'unanimité par le Conseil des États et une très large majorité devant le National, 174 voix contre 18 et 3 abstentions. Ce n'est pas la fin du débat pour autant, puisque les jeunes UDC ont annoncé le lancement d'un nouveau référendum contre cette loi Covid-19. Un des bienfaits de la pandémie, le nombre de personnes accidentées en Suisse a nettement baissé en raison du coronavirus et du semi-confinement. La SUVA annonce ce matin que les accidents professionnels ont reculé de 11% par rapport à l'année d'avant, tout comme les accidents de loisirs. La SUVA a donc économisé de l'argent et proposera l'an prochain à ses assurés des primes historiquement basses.
Vous écoutez RFJ, il est 12h28.
Sport. Et il n'y a pas que les stars du ballon rond qui sont à l'honneur en ce moment. Le football des talus sera lui aussi en fête ce week-end à Courandelin avec les finales de la Coupe jurassienne pour les juniors. Ça se passe au Stade du Canal. Toutes les catégories auront droit à leur moment festif, des juniors E aux juniors A en passant par les filles. Une manifestation qui doit évidemment s'adapter aux mesures de lutte contre le coronavirus. Des dispositions ont donc été prises, Michel Léoni.
L'association jurassienne de football a quelque peu aménagé le calendrier habituel. Les juniors A seront les seuls à jouer le dimanche matin. C'est donc le samedi que les matchs s'enchaîneront au canal. Normalement, les plus petits, à savoir les juniors D, ouvraient les feux et les plus grands, les A, clôturaient la fête en soirée. La JF a toutefois décidé d'intercaler les finales de junior B et de junior A entre des matchs avec de fortes affluences attendues. C'est en effet dans ces catégories d'âge que le nombre de spectateurs est habituellement le moins élevé, d'après la JF. Ainsi, on verra les juniors D à 10h, suivis des B à midi, des C à 14h, des A à 16h et des filles pour finir à 18h. Et puis, le FC Courandelin, club organisateur, sera en charge de faire respecter les mesures en lien avec le coronavirus. 300 personnes pourront accéder au stade du canal en même temps, mais devront être masquées et garder leur distance. Aussi, le traçage sera obligatoire à partir de 50 spectateurs.
Le premier adversaire du HC Ajoie dans le prochain championnat de National League de hockey sur glace se renforce. Le HC Bienne a annoncé ce matin l'engagement de Jere Salinen, attaquant finlandais de 30 ans. Il jouait à Helsinki l'hiver dernier, champion du monde il y a 2 ans. Il a paraffé un contrat d'une saison. Vous l'attendez, c'est maintenant. On parle de l'Euro.
Le journal de l'euro, sur le terrain de la mobilité responsable avec la nouvelle Volkswagen ID.4 100% électrique à découvrir au garage Maurice Montavon à Develier.
Volkswagen.
Et on commence avec une bonne nouvelle pour l'équipe d'Espagne. Son capitaine Sergio Busquets peut rejoindre le groupe pour la suite de l'Euro de football. Il est guéri du Covid-19 selon une annonce faite aujourd'hui par la Fédération espagnole. Le joueur de Barcelone a été déclaré positif à la maladie le 6 juin dernier. L'Espagne joue demain contre la Pologne. Un duel fratricide aujourd'hui à l'horizon dans le groupe D. L'Angleterre va défier l'Écosse à Wembley à Londres. Les Anglais qui ont réussi leur entrée en matière dans la compétition en battant la Croatie 1-0. Les Écossais et eux l'ont manqué en perdant contre la République tchèque 2-0. Ils entendent donc bien jouer crânement leur chance contre le voisin et rival anglais, le sélectionneur de l'Écosse, Steve Clarke.
We hope to start just as quick as England. We'll go out there, we'll try and get on the front foot as early as possible, we'll try and get a hold of the ball.
Nous espérons démarrer aussi rapidement que l'Angleterre. Nous essaierons de rentrer dans le match le plus tôt possible et de prendre le contrôle du ballon. Les joueurs ont tous très envie de disputer ce match, d'aller au charbon pour leur pays. Les motiver pour jouer sera assez facile car nous savons que c'est un match important et que nous devons en retirer quelque chose. Notre objectif avant le tournoi était de nous qualifier pour les huitièmes de finale pour la première fois de notre histoire. C'est toujours possible aujourd'hui. Mais il faudra obtenir des points contre l'Angleterre et la Croatie.
Un des propos traduits par Nicolas Meusy, Angleterre-Écosse, c'est à 21h ce soir. On s'y arrête en détail, évidemment, dans le Café de l'Euro. Ce sera avec Stéphane Anchaud, qui sera notre expert du jour entre 13h et 13h30. Ancien défenseur de Liverpool et du Celtic Glasgow, grand connaisseur du football britannique. Le Café de l'Euro évoquera aussi l'ambiance qui règne dans les stades de 7 euros avec le retour du public. Sur les pelouses, deux autres matchs vont se jouer aujourd'hui. Toujours dans le groupe D, la Croatie défie la République tchèque à 18h à Glasgow. Et dans le groupe E, la Slovaquie va tenter de valider sa qualification pour les huitièmes de finale. Elle obtiendra son ticket si elle bat la Suède dès 15h à Saint-Pétersbourg. Des nouvelles de l'équipe de Suisse également. Yann Sommer est de retour à l'entraînement. Le gardien de la Nati a repris sa place sur le rectangle vert ce matin. C'est l'association suisse de football qui l'a annoncé. Yann Sommer a quitté la délégation helvétique mercredi soir après la défaite face à l'Italie. Il a pu assister à la naissance de son deuxième enfant, une petite fille prénommée Naïla. Et puis du côté de Moscou, la fan zone ferme ses portes. Les autorités interdisent dès aujourd'hui tout événement de divertissement qui réunirait plus de 1000 personnes. La capitale russe fait face à une nouvelle flambée des cas de Covid-19.
Le journal de l'Euro, sur le terrain de la mobilité responsable avec la nouvelle Volkswagen ID4 100% électrique à découvrir au garage Maurice Montavon à Develier.
Volkswagen. Merci Jérémy Pignard. On poursuit avec la météo. Il y aura une naissance à vous annoncer dans un instant et sachez que la suite en musique, ce sera avec Sia. Météo News nous annonce un rapide développement de cumulus sur les franches montagnes avec quelques averses et orages isolés mais localement forts éclatants dès le début de cet après-midi. Les foyers orageux pourront déborder par endroits en plaine d'ici la fin de journée avec une intensité pouvant être marquée. Il fait lourd aujourd'hui avec un mercure grimpant jusqu'à 24 degrés à 1000 mètres et 29 à basse altitude. Demain, le temps sera bien ensoleillé et chaud avec quelques voiles d'altitude et un développement de cumulus quasiment sans risque d'averses et d'orages. La soirée sera calme et très douce et il fera entre 28 et 31 degrés au meilleur de la journée. Et dimanche, le temps sera assez ensoleillé avec des bancs nuageux déjà étendus en matinée. Le ciel sera plus menaçant l'après-midi avec quelques averses et orages localement forts éclatant sur la région. Ça devrait encore se dégrader en soirée et dans la nuit sous de fortes rafales de vent. Il fera au meilleur de la journée dimanche 23 degrés aux Franches-Montagnes et 28 en plaine.